Bonjour à tous. J'espère que vous passez une bonne journée et que vous profitez pleinement de l'hiver ici, dans le haillon. Pendant des années, je me suis dit, j'aimerais tellement qu'on ait un hiver canadien comme il faut. Nous avons eu un hiver canadien comme il faut, et maintenant, je suis prêt à ce qu'il se termine, car il a vraiment été mémorable. Il y a suffisamment de neige dehors. Mais pour en venir au message d'aujourd'hui, nous allons nous éloigner un peu de ce que j'aborde habituellement et de la manière dont je le fais, car il arrive parfois que vous lisiez des passages de la Bible sur des personnages qui vous frappent comme étant des personnes, des expériences ou tout autre élément qui, d'une manière ou d'une autre, font écho à la vie que vous et moi menons aujourd'hui. Peut-être pas de manière évidente, mais d'une manière spirituelle qui peut vraiment vous attirer vers le personnage, la personne ou ses expériences. Lorsque vous parcourez la Bible, c'est une histoire, c'est un livre de récits, les histoires de ceux qui ont soit réussi de manière spectaculaire, soit échoué de manière spectaculaire, et parfois les deux, selon qui ils sont. Certains étaient craintifs et ont échoué à cause de cela, de leur faiblesse ou de leur ignorance, selon les circonstances, mais d'autres ont échoué parce qu'ils n'ont pas réalisé ce qu'ils auraient pu réaliser. Ils n'ont peut-être pas échoué au final, mais ils n'ont pas atteint leur plein potentiel. La Bible montre qu'il existe de grandes figures qui ont accompli beaucoup, qui ont échoué de manière spectaculaire, comme David, mais qui ont néanmoins réussi, se sont repentis, mais à cause de leurs échecs dans leur vie, ils n'ont pas accompli ce que Dieu avait initialement prévu pour eux. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser à quelqu'un, non pas pour savoir s'il a réussi, car vous verrez clairement que la Bible dit qu'il a réussi, mais pour savoir comment il n'a pas su gérer sa vie ou ses expériences pour arriver là où il aurait dû arriver et suivre la voie que Dieu avait prévue pour lui. Vous avez probablement tous pensé, entendu ou lu l'histoire de Samson. Lorsque vous le faites, vous imaginez généralement ce que la plupart d'entre nous imaginons, ce que j'imagine lorsque j'entends cette histoire. Il a fait vœu de Naziréa, il avait les cheveux longs, il était très fort et il a commis quelques erreurs, mais finalement, si vous racontez cette histoire, surtout si vous avez des enfants, la conclusion est que sa force lui a permis de s'en sortir et qu'il a finalement fait ce qu'il fallait, mais a-t-il vraiment fait ce qu'il fallait? Peut-être à la fin. Quand Dieu a consigné l'histoire de Samson, il ne l'a pas fait pour montrer la puissance de Dieu, car c'est finalement ce qu'il lui a donné. Dieu l'a vraiment consigné pour montrer ce que pouvait être le gaspillage de puissance, le gaspillage de potentiel. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, vous devez remonter dans le temps. Nous devons remonter dans le temps et imaginer l'époque où Israël répétait le même schéma, s'améliorer, puis retomber dans ses anciens travers, s'améliorer, puis retomber dans ses anciens travers. Israël a fait cela encore et encore, à maintes reprises. Un juge était élevé. Ils se rassemblaient et obéissaient à Dieu, puis ils commençaient à se reposer sur leurs lauriers, et tout s'écroulait à nouveau. C'était un cycle qui se répétait sans cesse, et dans ce récit, cela faisait environ 40 ans que les Philistins dominaient Israël. Ils étaient opprimés. En fait, toute une génération a grandi sous cette oppression. Lorsque Dieu est finalement intervenu cette fois-ci, il ne l'a pas fait de manière spectaculaire comme dans certains autres récits. Il existe de nombreux autres récits où Israël a échoué. Ils ont élevé un juge, une figure puissante, homme ou femme, peu importe, et ils ont conduit Israël hors de l'esclavage, hors de la captivité, mais ce n'était pas le cas dans le récit de Samson. Ce n'était pas un juge, ce n'était pas une armée. Dans ce cas, Dieu a commencé discrètement, très discrètement. Il a commencé par une femme stérile, dans une famille obscure, dans une nation qui était devenue incroyablement faible, Et avant que quiconque ne sache ce qui se passait, Dieu était déjà intervenu. Il a décidé d'agir. Il voulait changer la situation dans laquelle se trouvait Israël, mais il allait le faire d'une manière différente de celle qu'il avait utilisée auparavant. Pour comprendre en quoi Samson a échoué, nous devons examiner à quel point Dieu a investi en lui dès le début. Et au fur et à mesure que nous avancerons dans ce message, certains éléments seront évidents, mais j'essaierai de souligner celles qui le sont moins, car elles contiennent de nombreuses leçons pour vous et moi, car nous avons reçu un pouvoir incroyable, une force incroyable et un but précis dans lesquels Dieu a investi très tôt, mais si nous ne faisons pas preuve de discipline, si nous ne nous soumettons pas à lui, nous pouvons gaspiller ce potentiel. Nous pouvons réussir à la fin. Nous pouvons faire partie de la famille de Dieu, mais ne pas accomplir dans cette vie tout ce que Dieu voudrait que nous fassions. Samson nous met donc en garde à ce sujet, et nous allons parcourir ce récit et en dresser un tableau précis, car l'histoire n'a pas commencé par un échec, bien sûr que non. Avant que quoi que ce soit n'arrive à Samson, tout a commencé dans Juges 13. Ouvrons nos Bibles à Juges 13. Vous voudrez peut-être mettre un marque-page ici dans Juges, car nous allons faire des allers-retours. Juges 13. Commençons au verset 1, Juges 13, verset 1. Si j'avais un dollar pour chaque fois que cela est dit dans la Bible, si ce n'était pas si tragique, ce serait drôle. Les enfants d'Israël firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Encore est ici l'accent, mais passons. Les enfants d'Israël firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Donc, encore une fois, une génération a été élevée. Il y avait à Zora, dans la famille des Danites, un homme nommé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas d'enfant. L'ange du Seigneur apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as pas d'enfant, mais tu concevras et tu enfanteras un fils. » C'est miraculeux. Maintenant, prends garde, je te prie, de ne pas boire de vin ni de boisson forte, et de ne manger aucune chose impure. Car voici, tu concevras et tu enfanteras un fils. Et le rasoir ne passera point sur sa tête, car l'enfant sera consacré à Dieu dès le sein de sa mère. Arrêtez-vous un instant et imaginez cette scène. Il est naziréen dès le sein de sa mère, donc l'ange du Seigneur ne voulait même pas que la mère fasse des choses qui enfreindraient le vœu naziréen, comme boire de l'alcool ou autre. Le verset 5 continue, et quel est son but? Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Pourquoi est-il intervenu? Et il commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Dieu est intervenu avant même que Samson n'existe. Ce vœu signifiait qu'il était censé accomplir quelque chose de spécial, d'unique. Cela le distinguait des autres, et son but a été défini au moment de sa conception, alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Dieu lui a confié une mission alors qu'il lui restait encore 9 mois avant de naître, mais cette mission, ce but, ne garantissait pas la fidélité de Samson, et encore une fois, je ne dis pas cela dans le contexte où Samson aurait été un échec complet. Nous verrons dans le livre des Hébreux qu'il a réussi. Mes frères, il ne s'agit pas de savoir si nous allons réussir. C'est bien sûr notre objectif ultime en tant que chrétiens, mais que faisons-nous pour y parvenir? Parfois, il est si facile pour nous, surtout si vous êtes dans un environnement, si vous avez une congrégation, un siège social, où que vous soyez, si tout va bien, il est facile de se reposer sur ses lauriers, de se fier à sa propre compréhension. Il suffit de se détendre. Non, je fais tout ce qu'il faut pour entrer dans le royaume, mais vous et moi avons été appelés à cette époque dans un but précis. À moins qu'il n'y ait eu un but pour que nous fassions partie des 144 000, à un moment précis, alors Dieu fait exception des personnes, et ce but aujourd'hui est de se préparer à faire partie du royaume de Dieu. Oui. Nous devons nous préparer à faire partie de la famille de Dieu, à 100%, mais vous et moi sommes ici aujourd'hui parce que nous avons une tâche à accomplir, soutenir et appuyer l'œuvre de Dieu, appuyer son Église à notre époque. Passons au chapitre 1 de Jérémie. Encore une fois, vous voudrez peut-être laisser ce marque-page dans le livre des juges. En fait, je vais suivre mon propre conseil et en mettre un là. Jérémie, chapitre 1. Jérémie, chapitre 1, verset 4. Jérémie 1, 4. Le verset 4 dit, Alors la parole du Seigneur me fut adressée, en ces termes, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, à Jérémie. Et avant que tu fusses sorti du sein maternel, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ce qui est arrivé à Samson n'est donc pas sans précédent. Jérémie a été ordonné dans le ventre de sa mère avant même sa naissance. C'est miraculeux, n'est-ce pas, mes frères? Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. Vous et moi avons été choisis pour être là où nous sommes aujourd'hui avant la fondation de l'univers. Pas dans le ventre de notre mère, mais dans l'univers, avant la fondation du monde, avant que tout n'existe. Dieu a regardé à travers le temps et l'espace, d'une manière que nous ne pouvons même pas commencer à concevoir, et il vous a choisi, vous et moi. C'est bien plus compliqué que de déterminer le rôle de quelqu'un au moment de sa conception. Vous avez donc été choisi, appelé en fait, mais pas activement avant d'être prêt et avant que Dieu ne détermine que c'était le bon moment dans votre vie. Mais il avait déterminé avant votre naissance que vous seriez appelé ou que vous naîtriez dans une famille où vos parents avaient été appelés et avaient obéi à Dieu pendant plusieurs générations. C'est extraordinaire. C'est encore plus extraordinaire que Samson. Passons au Nouveau Testament, Luc chapitre 12. Luc 12. Vous ne pouvez donc pas grandir tant que vous n'êtes pas appelé. Vous ne pouvez pas devenir mature tant que vous n'avez pas atteint un état de maturité. Vous ne pouvez pas devenir spirituellement efficace tant que vous n'êtes pas devenu plus spirituel, que vous n'avez pas été baptisé, que vous ne vous êtes pas converti, que vous n'avez pas reçu l'Esprit de Dieu, mais une fois que vous l'avez fait, tout change. Luc chapitre 12. Vers la fin de ce chapitre, verset 47, Luc 12, verset 47, et ce serviteur, qui connaissait la volonté de son maître, et qui ne s'est pas préparé, et qui n'a pas agi selon sa volonté, sera battu de nombreux coups. Et au verset 48, mais celui qui ne savait pas et qui a fait des choses dignes de coups, sera battu de peu de coups. Car à quiconque il a beaucoup été donné, il sera beaucoup demandé, et à celui à qui les hommes ont beaucoup confié, ils demanderont davantage. À celui qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. La connaissance s'accompagne de la responsabilité d'agir en fonction de cette connaissance, de cette compréhension, ce qui signifie que vous et moi devons agir. Plus nous en savons, plus on attend de nous que nous réalisions le potentiel que vous et moi avons, que Dieu a mis en nous. La force, le pouvoir. Avoir l'Esprit de Dieu en nous est bien plus que la force que Samson avait, mais encore une fois, vous pouvez le considérer comme une figure du pouvoir qui lui a été donné, qui venait de l'Esprit de Dieu, qui est le pouvoir qui est en nous, cette force innée. C'était physique. Nous avons la force spirituelle. La force, la protection, un but ont été donnés à Samson. Il avait une tâche à accomplir, mais aucune de ces tâches ne changeait le fait qu'il devait obéir. Mes frères, Vous avez en vous un pouvoir incroyable grâce à l'Esprit de Dieu, que ce soit en vous, ou si vous êtes un jeune ou un membre potentiel travaillant avec vous, c'est le même pouvoir qui a créé l'univers, et Dieu a dit, je vous le donnerai, comme il l'a donné à Samson, et Samson avait un pouvoir et une force qui dépassaient tout ce que nous pouvons imaginer. C'est incroyable ce que Dieu nous donne, car nous comprenons des choses sur la nature humaine que personne d'autre ne comprend, et Dieu vous donne cela gratuitement, ce pouvoir, cette compréhension gratuitement, mais ensuite il nous laisse beaucoup de liberté, et c'est la partie la plus difficile du christianisme, c'est qu'on nous laisse de la liberté pendant que nous apprenons et qu'on nous explique et que nous arrivons à comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Et ensuite, on nous donne la possibilité de choisir de faire ce qui est bien et de renoncer à ce qui est mal. Car si nous sommes forts et que nous recevons de la force et du pouvoir, mais que nous ne sommes pas disciplinés, oh, les choses changent. J'ai passé une grande partie de mon enfance à pratiquer les arts martiaux, en particulier le Wing Chun Kung Fu, et il y a beaucoup de choses négatives à ce sujet. C'était avant que je ne rejoigne l'Église, avant que je ne m'intéresse au mysticisme et aux arts martiaux, mais l'un des éléments du Wing Chun en particulier a en fait été créé par une femme, et donc, il s'agissait davantage de détourner la puissance, de la réinterpréter ou de la déplacer que d'opposer la force à la force, mais ces cours nous ont été inculqués dès le début de mon adolescence, en nous expliquant qu'il s'agissait avant tout de défense, que l'on pouvait très vite blesser les autres et qu'il fallait se contrôler. Dans ce sens, j'ai acquis une force physique, mais on m'a enseigné, et cela nous a été martelé dans la tête encore et encore, qu'il s'agissait d'un art martial défensif. Ce n'est pas quelque chose que l'on utilise de manière offensive, car il faut être responsable de cette puissance, et la société le sait. Si deux personnes se battent, l'une d'elles est très entraînée et l'autre ne l'est pas. Les choses doivent se passer d'une certaine manière. Même si c'est lui qui a commencé la bagarre, il est roué de coups par celui qui est très entraîné, et celui qui a commencé la bagarre peut porter plainte pour agression, agression avec une arme mortelle, si la personne est suffisamment entraînée. Le pouvoir exige de la responsabilité et de la maîtrise de soi. Sans cela, toute cette force, tout ce pouvoir devient un handicap, et de quoi Dieu parle-t-il lorsqu'il parle de pouvoir? Vous avez déjà entendu ce mot. Je me souviens que lorsque je l'ai entendu pour la première fois à l'église, je me suis dit, cela n'a aucun sens pour moi. Je n'ai jamais entendu cela auparavant. Mais cela s'appelle les fruits de l'esprit, que nous lirons plus tard. Il s'agit de la tempérance. C'est la maîtrise de soi. Bon, revenons au livre des Juges. Juges chapitre 14. Si vous avez vos marque-pages, vous y êtes rapidement. Verset 5. Juges chapitre 14. Verset 5. Samson descendit alors avec son père et sa mère à Tina, et lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Tina, voici qu'un jeune lion rugit contre lui. L'esprit de l'Éternel le saisit d'une grande puissance, et il le déchira comme on déchire un chevreau. Une chèvre. Pas un enfant, mais une chèvre. Il n'avait rien dans la main, mais il n'avait pas dit à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Samson commençait déjà à montrer des signes de manque de maîtrise de soi. Il a réagi dans l'instant et a tué ce lion. C'est une histoire incroyable, car on pense qu'il s'agit d'un homme contre un lion, mais qu'a-t-il fait? Il l'a caché. Il savait qu'il avait fait quelque chose de mal. Il est allé trop loin, mais c'était aussi une preuve étonnante de la puissance que Dieu lui avait donnée. La force de Samson était indéniable, mais la force n'est pas synonyme de justice. Vous et moi devons faire preuve de justice et agir avec justice grâce à la force qui nous a été donnée. Encore une fois, on attend beaucoup de nous parce qu'on nous a beaucoup donné. La tempérance n'est pas quelque chose que vous et moi pouvons rendre facultatif dans notre vie. C'est un fruit de l'esprit. Regardons cela. Galates 5. C'est un verset à mémoriser, mais il est approprié de le lire ici. Galates chapitre 5, verset 22. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Si nous pouvons nous contrôler par elles, la loi, en fait, ne s'applique pas parce que nous ne la transgressons pas, et tous les autres fruits de l'esprit peuvent croître et se développer dans ce cadre de maîtrise de soi. Si vous avez l'amour, la joie, la paix et tout le reste, peu importe ce que vous faites, si vous êtes simplement incontrôlable, si vous n'avez pas de maîtrise de vous-même, si vous ne manifestez pas la tempérance de Dieu par son esprit en vous, alors les autres fruits n'ont pas d'importance, car nous allons commettre des erreurs. Nous allons pécher. Nous ferons tout ce qui nous passe par la tête, et au lieu de nous appuyer sur Dieu, nous nous appuierons sur notre propre compréhension et ferons ce que nous pensons être juste à nos yeux, au lieu de rechercher la volonté de Dieu dans nos vies. La maîtrise de soi doit être évidente dans tous les aspects de notre maturité spirituelle. C'est un pouvoir régi par la retenue. La retenue, si l'on repense aux arts martiaux, à son son ou à toutes ces choses, est une évidence. Si vous êtes plus fort qu'un homme ou qu'une femme, il y a une raison pour cela dans l'Église. Si un homme frappe une femme, il est immédiatement renvoyé, exclu de l'Église. Et ensuite, nous déterminons ce qui s'est passé. Parce que l'homme a le, et celui qui a le vase le plus faible, la femme, a la responsabilité et le fait qu'il est plus fort et plus puissant de se retenir avec quelqu'un qui aurait besoin de cette retenue. Il faut avoir cette tempérance. Quand elle n'est pas là, les choses peuvent très vite très mal tourner. Samson, à travers ses récits, a démontré à maintes reprises sa force, sa puissance, son incroyable talent, mais savez-vous ce qu'il n'a pas beaucoup démontré? La tempérance. Ironiquement, le vœu naziréen consistait à faire preuve de discipline, de retenue, mais comme Salomon, qui a fait ce qu'il fallait au début, a commencé à changer, et ses capacités, sa sagesse l'ont amené à cesser de se concentrer sur la manière de plaire à Dieu pour se concentrer davantage sur la manière de se faire plaisir, et Samson a fait de même. Passons au chapitre 25 du livre des Proverbes. Voyons ce que la Bible dit à ce sujet. Proverbe 25. Tout près de la fin du livre des Proverbes. Proverbe, chapitre 25. Verset 28. Un seul verset ici. Verset 28. Celui qui ne maîtrise pas son esprit est comme une ville détruite, sans muraille. Ne pas avoir de contrôle sur nous-mêmes signifie que nous sommes sans défense face à tout ce qui nous arrive. Cela nous rend exposés, vulnérables aux attaques, et permet au diable de s'introduire dans notre esprit, car nous n'avons pas ce moment de pause. Car en réalité, c'est cela, l'obstination. C'est ce moment d'obstination. C'est ce moment où vous êtes tenté, où quelqu'un vous provoque, où vous vous dites « Oh, je pourrais faire cela », ou une pensée, mais pourtant, ce que vous faites, ou ce que nous devrions faire, c'est l'obstination, ou la maîtrise de soi, ou la capacité à se contrôler, qui nous permet de nous arrêter et de réfléchir. Ironiquement, Samson était assez fort pour vaincre tous ses ennemis. Il était assez puissant pour détruire des lions, mais il ne pouvait pas se commander ou se contrôler lui-même. Mes frères, il en va de même pour vous et moi aujourd'hui. Il est si facile de voir les problèmes dans le monde qui nous entoure, de voir comment la société s'effondre, et pas seulement en Amérique, Mais dans tous les pays du monde où les problèmes s'aggravent de plus en plus, et où les problèmes spirituels sont complètement insolubles, mais il est plus difficile de se regarder dans le miroir et de voir quand ces problèmes spirituels sont les nôtres, de nous gouverner nous-mêmes, mais Dieu n'a jamais voulu que vous et moi fassions cela seuls. C'est pourquoi vous êtes assis dans une congrégation, vous regardez cette vidéo, vous êtes dans la situation qui est la vôtre, vous avez été appelé dans l'Église de Dieu, car cela n'est pas censé se faire seul. Peu importe que l'Esprit de Dieu en vous soit la force et le pouvoir qui nous permettent de le faire. Comme il est dit, par Christ, tout est possible. C'est la force qui nous est donnée, mais sans la tempérance, oh, cela commence à devenir imprudent. Nous commençons à voir des choses que nous ne devrions pas voir. J'ai déjà dit en plaisantant que l'une des choses intéressantes à propos de la nature humaine et du fait d'être chrétien, c'est qu'avant que vous et moi ne soyons appelés, nous étions soumis à la nature humaine comme tout le monde. Vous la suiviez simplement parce que vous n'aviez jamais reçu le mode d'emploi pour comprendre comment elle fonctionne. Alors vous entrez dans l'Église de Dieu, et cela est particulièrement vrai pour les jeunes, nous devons être prudents car vous pouvez manipuler les gens. Vous avez la capacité de savoir comment leur cerveau fonctionne, comment Satan les contrôle, et vous avez le mode d'emploi pour le faire, mais pour être chrétien, pour être juste, vous n'en profitez pas. Vous l'utilisez comme un outil pour aider. Au lieu de... Si vous ne le contrôlez pas, cette connaissance devient un handicap plutôt qu'une bénédiction qui nous aide à nous contrôler. Lorsque la tempérance fait défaut, le désir prend tout simplement le dessus. Cela conduit à l'échec suivant de Samson. Au lieu d'être fidèle à Dieu, de lui faire confiance, il a commencé à céder à ses désirs. Revenons au chapitre 14 du livre des Juges. Vous et moi exprimons notre manque de maîtrise de soi, notre manque de tempérance de différentes manières. Parfois, cela concerne l'alimentation. Nous pouvons décider, vous savez quoi? Je vais me faire plaisir, je vais manger cette barre chocolatée, je vais manger ce gâteau, je vais aller chez McDonald's. Quel que soit le cas, cela peut être votre vice, si vous voulez. Le domaine dans lequel votre maîtrise de soi est la plus faible. La tempérance est, elle vacille. Cela peut être l'alcool. Cela peut être la luxure. Cela peut être le besoin de rivaliser avec les Jones. Elle se manifeste par. Si nous revenons à l'épître aux Galates, nous pouvons examiner les éléments qui constituent la nature de Satan, le fruit, si vous voulez. De la chair, mais vous et moi allons manifester un manque de tempérance de différentes manières, car c'est une propension qui est en nous, mais la même chose s'applique. Dans le cas de Samson, le problème était la luxure. Chapitre 14, verset 1. Verset 1 de Juges 14. Samson descendit à Tina, et il vit à Tina une femme parmi les filles des Philistins. D'accord. Il était né pour aider Israël à commencer, comme le dit la Bible, à libérer Israël de la captivité sous l'oppression des Philistins. Alors, qu'a-t-il fait? Verset 2, il remonta, et dit à son père et à sa mère, « J'ai vu à Tina une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la donc pour moi comme femme. Je vais l'épouser, alors allez la chercher pour moi. » Son père et sa mère ont donc fait une première tentative, mais il y a plusieurs erreurs ici. Son père et sa mère lui dirent, N'y a-t-il donc pas de femme parmi les filles de tes frères ou parmi tout mon peuple, que tu ailles prendre une femme parmi les Philistins incirconcis? Et Samson répondit à son père, Allez me la chercher. Pourquoi? Parce qu'elle me plaît. Ce n'est pas un bon conseil matrimonial. Si un couple se mariait et que le mari regardait sa femme, et que nous étions assis dans une consultation matrimoniale, disons, Que voyez-vous dans cette femme, Edadada? Elle me plaît. Y a-t-il autre chose? Elle me plaît. Êtes-vous à l'aise avec cette jeune femme? Elle me plaît. Il ne se passe pas grand-chose de ce côté-là. C'était son approche, donc il y a plusieurs erreurs ici. Premièrement, les parents ont essayé. Ils ont fait une première tentative. Il était en âge de se marier à ce moment-là, il avait donc plus de 20 ans, mais ils ont échoué, n'est-ce pas? En raison de la nature et des coutumes de l'époque, les parents approuvaient ces mariages, même ceux qui n'étaient pas corrects. Il a oublié le mariage interracial. Il a oublié tous les aspects de la question, et le père a reculé alors qu'il aurait dû se lever et dire « Absolument pas. Si tu fais cela, c'est contre ma volonté. Je ne l'accepterai pas. C'est mal. C'est contraire à la loi de Dieu, mais il ne l'a pas fait. Parents, nous avons cette responsabilité. Nous élevons nos enfants avec amour et attention, nous les aidons à devenir forts et efficaces, à prendre des décisions, à avoir leur propre opinion et leur propre personnalité, mais il y a une ligne à ne pas franchir lorsque nous disons, c'est contraire à la loi de Dieu. Tu dois y obéir, tout comme nous devons y obéir, et si nous n'y obéissons pas, comment pouvons-nous tracer cette ligne? Parce que les enfants détectent l'hypocrisie à un niveau que les adultes n'atteignent jamais. Lorsque vos enfants vous admirent, ils vous voient. Ils ne vous voient pas vivre le christianisme. Ils ne vous voient pas traverser jour après jour les épreuves, les luttes et les décisions difficiles derrière des portes closes. S'ils ne vous voient pas prier, étudier, jeûner et faire tout ce qui fait partie de la vie chrétienne, ils ne vous suivront pas. Pourquoi le feraient-ils? Leur meilleur exemple est quelqu'un qui est hypocrite, alors nous devons aussi vivre ainsi. Nous devons marcher de cette manière. Nous devons être capables de faire tout ce qui est juste aux yeux de Dieu, car alors nous pouvons aider et fixer des limites, tout comme les parents de Samson auraient dû fixer des limites et dire non, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont laissé le plaisir personnel de Samson, son désir, l'emporter sur l'obéissance. Elle me plaît beaucoup. Ce n'est pas une réflexion profonde et mûrement réfléchie, c'est de la luxure, mais la luxure dans la Bible ne se limite pas nécessairement aux pulsions sexuelles. C'est un élément parmi d'autres, mais il s'agit surtout de désirs égocentriques. Lorsque nous voulons quelque chose, cela prend le dessus sur nos facultés mentales et devient notre priorité. Les gens font ce qu'ils veulent faire. J'ai entendu M. Pack dire il y a des années que lorsque vous conseillez travailler avec quelqu'un, en fin de compte, les gens font ce qu'ils veulent faire. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, vous pouvez vous asseoir, et ils vont acheter une voiture ou une maison, se marier ou se faire baptiser. Peu importe le sujet, mais tout le monde aborde une situation de conseil avec un parti pris, et c'est normal. En tant qu'êtres humains, nous avons tous nos préjugés naturels, mais le but de la consultation est de reconnaître ses préjugés, ses pensées ou ses préférences afin de les aligner sur ce que Dieu dit dans la Bible. Si quelqu'un fait cela, il suit les conseils et ce qu'il veut faire finit par être la chose juste à faire. S'il ne le fait pas, il fait ce qu'il avait prévu de faire avant la conversation et il le fait parce qu'il s'en moque. Il voulait juste une approbation, et si vous ne lui donnez pas cette approbation, il trouvera à redire au conseil, car les êtres humains font ce qu'ils veulent, et dans ce cas, c'est ce qu'a fait Samson. Passons à la première épître de Jean, chapitre 2. Elle lui plaisait, alors il est allé faire ce qu'il voulait faire. Première épître de Jean, chapitre 2. À partir du verset 15. Quelques versets simples qui relient ces éléments entre eux. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, les désirs égocentriques, ne vient pas du Père, mais du monde. Et le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement parce qu'il sera dans la famille de Dieu. Il sera éternel. Toutes ces choses matérielles disparaîtront, et quand on est pris dans le tourbillon de la vie matérielle, il est difficile de garder ses repères. Il est difficile de voir la vie lointaine et de se dire, non, je dois me concentrer sur la vie lointaine. C'est là que je vais. Je veux la vie éternelle. Parce qu'alors, tout ce qui vous entoure commence à envahir cette pensée, et parfois, c'est juste, la vie est difficile. Si le christianisme était facile, tout le monde le pratiquerait, mais la vie peut être difficile. Elle peut être ardue. Vous pouvez vivre des expériences, des épreuves, ou simplement votre quotidien normal. Votre travail est exigeant. Vous avez un bébé. Il pleure. Vous ne dormez pas. Peu importe ce que c'est. La vie peut devenir difficile, et nous commençons à nous concentrer sur ces choses. Nous oublions où se trouve notre objectif, et tout ce qui se trouve dans le monde, le verset 16 dit, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, cette convoitise commence à rivaliser avec l'attention de Dieu. Elle remplace l'obéissance, car si vous disposez de 24 heures dans une journée, vous n'avez qu'un nombre limité d'heures pour faire certaines choses. Si nous remplaçons une partie de notre réflexion, de notre temps, à cause de ces éléments qui envahissent notre vie, la convoitise de la chair ou des yeux, peu importe, nos désirs égocentriques, cela laisse moins de temps pour Dieu, moins de temps pour l'étude et la prière. La convoitise est temporaire. Elle se termine généralement mal, mais Samson a choisi à plusieurs reprises de faire ce qui lui plaisait. Nous pourrions couvrir les éléments positifs de Samson tout au long de ce message. Ce serait facile à faire. Nous pourrions raconter l'histoire des combats et des batailles, les choses que l'on raconte aux petits-enfants quand on leur parle de Samson. C'est passionnant. Les petits garçons adorent entendre ces histoires, mais mes frères, c'est comme l'évaluation du discours d'un porte-parole. Eh bien, l'approche sandwich, comme on dit, nous commençons par quelque chose de positif, mais en réalité, et nous le savons tous, la partie que vous et moi écoutons lorsque nous recevons ces évaluations, merci pour la partie superficielle, mais nous nous concentrons tous sur la partie centrale où l'on se demande, sur quoi puis-je m'améliorer? Qu'ai-je fait de mal? Comment puis-je m'améliorer? Mais lorsque la convoitise, les soucis, les désirs égocentriques deviennent notre centre d'intérêt, ce n'est plus de la convoitise. C'est quelque chose de différent. Allez au chapitre 3 de Colossiens. Encore une fois, considérez cela comme des désirs égocentriques, pas seulement comme de la convoitise sexuelle, car cela simplifie les choses et va à l'encontre de ce que nous allons voir dans Colossiens 3. Verset 5. Colossiens 3, 5. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre. Voilà donc ce que signifie avoir et être de la chair. La fornication, l'impureté, les passions démesurées, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Mes frères, lorsque la luxure prend le dessus, lorsque les désirs égocentriques prennent le dessus, nous ne sommes pas obstinés. Nous adorons des idoles. Il ne s'agit pas seulement d'une statue ou d'une image de Marie ou d'une croix sur le mur. Ce sont des idoles physiques. C'est un jeu d'enfant comparé à ce que les idoles spirituelles peuvent nous faire, à vous et moi. C'est drôle, Quand on fréquente l'église depuis un certain temps, ces choses commencent à devenir un peu amusantes et effrayantes, comme pourquoi adorons-nous cette image de quelqu'un que nous ne connaissons même pas? Ce n'est pas Marie, ni Christ, ni aucun d'entre eux. On nous dit de ne pas le faire, mais peu importe, ce n'était même pas eux. Il n'a même pas été crucifié comme cela. C'était un poteau, donc cela ne devient pas comique, mais un peu. Non, pour vous et moi, le danger, c'est que nos idoles existent dans nos cœurs, dans ce que fait notre esprit. Seul Dieu connaît votre idole, à moins qu'elle ne soit très évidente. Si la gourmandise est votre idole et que vous mangez trop, d'accord, nous le verrons. Peut-être pas au début, mais au bout de 3 ou 4 semaines, lorsque les boutons de votre costume commenceront à être un peu serrés, nous le verrons. Si l'idolâtrie se produit discrètement dans votre esprit, la pornographie ou les choses qui se passent derrière des portes closes ou les pensées ou les convoitises ou d'autres faiblesses qui ne sont pas aussi évidentes, non, seul Dieu le verra, mais cela devient de l'idolâtrie. Décochez le désir. C'est là que cela mène. Votre obéissance se transforme en appétit. L'appétit contre la volonté de Dieu, la convoitise, le désir et l'égoïsme deviennent la force qui anime désormais votre vie. Cela devient l'élan, le carburant de ce que vous voulez faire, de ce que vous désirez et de l'évolution de votre pensée. Tout ce qui remplace Dieu au centre de votre attention, est une idole. Peu m'importe que ce soit votre intérêt pour les voitures, la technologie ou tout autre aspect de la vie, lorsque nous ne sommes pas centrés sur Dieu, Christ, l'Église, tous ces éléments, nous permettons à d'autres choses que nous ne devrions pas adorer de devenir des choses que nous adorons, et plus nous le faisons, plus cela devient facile. Plus nous cédons à ces désirs, moins nous y pensons, comme pour tout le reste. Lorsque vous commencez à jouer d'un instrument, à apprendre à chanter, à faire de l'exercice ou à essayer de courir un marathon, quoi que vous décidiez de faire physiquement, plus vous le faites, plus cela devient facile. J'ai récemment découvert que ma montre est connectée à un Fitbit. Lorsque j'ai acheté ma nouvelle montre, j'ai obtenu ce Fitbit Premium et ils viennent de sortir une application. Il s'agit d'un programme d'exercice, si vous ne le connaissez pas, avec des outils, et il intègre désormais une intelligence artificielle. Je me suis dit, vous savez quoi? J'ai des objectifs, je veux réduire mon tour de taille, améliorer un peu ma condition physique et être en forme, alors parlons-en et mettons cela en pratique, car je faisais de l'exercice, j'avais une routine, et j'avais une routine très efficace. Elle durait 12 minutes. Je la terminais. C'était un exercice complet pour tout le corps. Ensuite, je courais un peu. C'était fini, et je le faisais, donc je pensais avoir trouvé la solution, mais après une semaine où cette IA m'a fait faire différents exercices, oh, certaines parties de mon corps me font mal, dont je ne savais pas qu'elles pouvaient me faire mal. Les épaules, le dos et toutes sortes de choses, parce que je travaille des muscles que je n'avais jamais travaillés auparavant. Cependant, si je continue à faire ces exercices, ces muscles cessent de me faire mal. Ces exercices deviennent plus faciles. Je commence presque à pouvoir les faire sans y penser. On remarque cela en tant que coureur. Quand on commence à courir, c'est difficile, on a le goût du fer dans la bouche si on se pousse un peu, mais il arrive un moment où courir devient facile. Vous courez, tout simplement. Votre corps s'y habitue. Il devient plus efficace. En fait, plus vous courez longtemps, moins vous brûlez de calories, car votre corps compense et devient plus efficace. Il devient plus facile de faire cette chose. Mes frères, il en va exactement de même pour le péché. Avec le temps, surtout s'il s'agit d'un péché particulier, d'une convoitise particulière, d'une faiblesse, d'une obsession, d'un désir, cela devient plus facile à faire sans y penser. Cela peut commencer à devenir automatique, et Samson l'a fait encore et encore. Il a satisfait son désir tant de fois que le péché est devenu facile. Cela ne l'a pas fait reculer, ni renoncer. Sa loyauté, son objectif et son attention envers Dieu ont été remplacés par ce désir, et la situation a empiré. Revenons au chapitre 16 du livre des Juges. Juges 16, verset 1, et c'est celui que nous connaissons tous lorsque nous pensons à Samson. Ce qui lui est arrivé, comment il est tombé, comment l'histoire a changé, c'est généralement ce qui nous vient à l'esprit lorsqu'il rencontre, nous verrons, la prostituée Dalila, mais nous y reviendrons dans un instant, donc Juges chapitre 16. C'est celui auquel nous pensons. Nous pensons, oh, Samson était incroyable. Il faisait toutes ces choses. Il travaillait si dur. Il sortait Israël de la captivité, de l'oppression des Philistins, grâce à sa force. Et puis Dalila est arrivée. Oh, mes frères, non, 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 non. Nous l'avons vu. Il avait déjà un schéma bien avant que cela n'arrive. Juges 16, verset 1. Samson se rendit alors à Gaza. Il continuait également à passer du temps dans les régions philistines, ce qui posait également problème. Samson se rendit à Gaza, y vit une prostituée, puis résista, réfléchit et décida, que dois-je faire? Je pense à Dieu, et j'ai déjà eu cette femme. Non, ce n'est pas ce qui est écrit, n'est-ce pas? Il vit là une prostituée et alla vers elle. Et il vit là une prostituée, et il alla vers elle. La seule chose qui sépare le moment où il l'a vue de celui où il est allé vers elle et a agi, c'est une virgule. Il n'y a vraiment aucune pause ici. Aucune résistance. Aucune hésitation. Aucune préoccupation quant à l'obéissance à Dieu. Aucune notion du bien et du mal, il est simplement allé vers elle. Cela ne s'est pas produit parce qu'il était obéissant et qu'elle était si belle et séduisante. C'était une prostituée. Ce n'était pas comme la reine de Saba ou une personne puissante qui serait entrée, et Samson aurait été submergé par sa beauté et son pouvoir. Non. C'était juste une prostituée, et ses yeux l'ont conduit à faire ce qu'il continuait à faire. Il est entré en territoire ennemi, et au lieu d'être vigilant, il a simplement laissé la luxure agir. Aucune résistance. Lorsque nous permettons aux idoles de prendre le contrôle de notre vie, cela commence à changer nos priorités. Des choses que nous n'aurions jamais faites deviennent une routine. Je le constate chez les personnes qui quittent l'Église. Elles pensent pouvoir s'éloigner du corps du Christ ou abandonner le mode de vie de Dieu. Elles pensent pouvoir s'accrocher à tout ce qui nous a été enseigné dans le monde entier, en ignorant tout ce que nous avons appris et en se cachant la tête dans le sable. Elles pensent pouvoir faire ces choses sans faire de compromis. Elles n'y parviennent jamais. C'est triste, mais elles n'y parviennent jamais. Environ la moitié d'entre eux, peut-être plus, abandonnent tout et installent des sapins de Noël, tandis que l'autre moitié rejoint des sectes et commence à accepter des normes et des doctrines qu'ils n'auraient jamais envisagées lorsqu'ils étaient connectés à la vigne, lorsqu'ils faisaient partie du corps du Christ. L'idolâtrie remodèle nos priorités. L'obéissance s'érode avant de s'effondrer. Nous désobéissons, 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 et notre obéissance à Dieu commence à s'éroder. Elle s'affaiblit de plus en plus, jusqu'à s'effondrer complètement. Lorsque nous permettons à cette convoitise ou à cette idolâtrie de devenir normale, nous faisons des compromis. Ce qui nous amène à ce que Samson a fait ensuite. Il a cessé de s'accrocher aux choses qu'il savait qu'il aurait dû faire. Il a épuisé tout le niveau de tempérance ou de maîtrise de soi qui lui restait. Revenez au livre des juges. Nous devrions toujours être dans le livre des juges. Revenez au chapitre 14. Lisez un passage avant de passer à la suite. Juges, chapitre 14. Nous commencerons au verset 8. Juges 14, 8. Après quelque temps, il revint pour la prendre, et il se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le cadavre du lion mort. Nous revenons donc au récit dont nous avons parlé précédemment, la première prostituée, si vous voulez, qui l'a vue. Il prit donc dans ses mains et continua à manger de ce lion impur, car le lion est impur. Il est mort, ce qui le rend impur, ce n'était donc pas une bonne décision, et il continua à manger. Il vint vers son père et sa mère et leur en donna, et ils mangèrent, mais il ne leur dit pas qu'il avait pris le miel dans la carcasse d'un lion. Il le cacha. Il ne prend plus les bonnes décisions. Cela se passe 2 chapitres avant que nous arrivions à Dalila. Il avait déjà renoncé à l'obéissance et aux choses qu'il aurait dû savoir, avec lesquelles il avait été élevé et qu'il comprenait depuis qu'il était dans le ventre de sa mère. Mes frères, si quelqu'un peut tomber lentement, pour finalement échouer, nous verrons, mourir, combien est-il important pour vous et moi d'intercepter ce genre de désir, ces convoitises, ces idoles dans nos vies maintenant, immédiatement, avant qu'elles n'érodent notre capacité à obéir à Dieu. Car plus nous les laissons s'installer dans nos vies, plus elles seront difficiles à éliminer. Elles sont comme un champignon qui s'infiltre dans nos vies. Si vous avez un champignon ou une excroissance, ou si vous voyez de la moisissure se former sur quelque chose, si vous le voyez tôt et que vous le grattez et vous en débarrassez, c'est beaucoup plus facile à éliminer. Si elles s'incrustent profondément parce qu'elles sont ignorées, elles sont beaucoup plus difficiles à éliminer, et avec le temps, elles empoisonnent et tuent, et nous perdons l'envie de les éliminer. C'est le péché d'idolâtrie, pareil dans nos vies. Nous perdons l'envie de l'éliminer. Samson a fait à maintes reprises des choses qu'il n'avait pas à faire. Il n'était pas obligé d'aller chercher le miel dans la gueule du lion. Il n'allait pas faire quelque chose d'impur. Il n'était pas obligé. C'était un plaisir, mais il a choisi de le faire et il l'a caché. Il accumulait les péchés au point de commencer à perdre la notion de ce qu'était la justice. Il commençait à s'écarter du droit chemin. Vous et moi pouvons faire de même, et l'histoire de Samson est puissante, mes frères, car nous pouvons nous égarer. Nous pouvons commettre des erreurs, mais si nous recherchons Dieu, si nous demandons conseil, si nous faisons appel au ministère de l'Aile, si nous demandons de l'aide et des encouragements à ceux qui nous entourent, nous pouvons nous remettre sur la bonne voie. Nous pouvons nous recentrer. Nous pouvons perdre une partie de notre récompense. C'est l'histoire de Samson. Il a perdu une partie de sa récompense, même s'il a finalement réussi, mais nous n'avons pas attardé comme il l'a fait. Il n'est pas nécessaire d'en arriver à un point si spectaculaire où vous devez appeler Dieu et où votre vie est perdue, mais je veux prendre de l'avance, car Dieu nous commande, à vous et à moi, de tenir bon. Allons au chapitre 10 du Deutéronome. Deutéronome 10, verset 20. C'est la base. C'est la base de ce que vous et moi devons faire. Deutéronome 10, 20. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Tout ce que nous faisons consiste à obéir à Dieu. Tout ce que nous faisons consiste à nous attacher à lui obéir et à jurer par lui, à faire ce qu'il veut que nous fassions. Pour obéir à Dieu, nous devons être proches de Dieu, et le péché, l'orgueil, les éléments, L'idolâtrie nous séparait rend donc cela plus difficile. Samson a simplement abandonné. Il ne s'est pas rendu compte qu'il abandonnait, mais il a abandonné en cédant. En cédant à ses convoitises et à ses désirs, il a renoncé à sa capacité de comprendre correctement quelle est la volonté de Dieu. Revenons au chapitre 16 du livre des Juges. Juges chapitre 16, et nous commencerons au verset 1. Juges 16, verset 1. Nous en avons déjà lu une partie, lorsque Samson est allé à Gaza, où il a vu une prostituée et est allé vers elle. Et on l'a dit aux Gazites, en disant, « Samson est venu ici, et ils l'ont encerclé, et l'ont attendu toute la nuit à la porte de la ville, et ils sont restés tranquilles toute la nuit, en disant, « Au matin, quand il fera jour, nous le tuerons. » Samson resta couché jusqu'à minuit, puis il se leva, arracha les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, et s'en alla avec eux. Grâce à sa force, il arracha les portes de la ville. Il les chargea sur ses épaules et les transporta jusqu'au sommet d'une colline qui est devant Hébron. Au verset 4, « Et il arriva après cela, il accomplit donc cet exploit prodigieux, passionnant, digne d'une légende. Il saisit ses portes et les emporta. » C'est souvent ce à quoi vous et moi pensons lorsque nous pensons à Samson. Sa puissance, sa force, tout ce qu'il a accompli. Nous ne nous concentrons pas nécessairement sur les fondations qui s'effondraient spirituellement sous ses pieds. Verset 4. Il arriva ensuite qu'il aima une femme dans la vallée de Sorek, qui s'appelait Dalila. C'est souvent ce que nous pensons de Samson, que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à commettre des erreurs, que les choses ont commencé à se gâter. Samson aurait dû s'enfuir. Il aurait dû partir. Le récit poursuit en expliquant comment Dalila était fidèle à son peuple, et non à lui. Nous verrons plus loin qu'il a cédé une fois de plus à la luxure. Il a vu Dalila, qui était une prostituée, et a montré sa faiblesse. Plus nous abandonnons ou cédons, plus il nous sera facile de le faire. Nous pouvons simplement mener le combat que nous devons mener, ce qu'il a fait dans certains domaines. Mes frères, vous et moi pouvons faire de bonnes choses dans certains domaines de notre vie. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas ivres au coin d'une rue, que nous ne prenons pas de décisions horribles et que nous ne sommes pas sans abri que nous n'avons pas de domaine dans notre vie où nous péchons. Nous péchons. Nous le faisons tous. C'est ce que nous devons éliminer de notre vie. Les bonnes choses sont formidables. C'est là que nous avons grandi et évolué, et nous pouvons être encouragés et enthousiasmés par le fait que nous ne sommes plus les mêmes personnes que lorsque nous avons été appelés pour la première fois, mais cela ne nous arrête pas. C'est différent du péché. Nous ne pouvons pas laisser les fondations s'éroder parce que nous sommes enthousiasmés par les bonnes choses que nous avons accomplies. Soyez enthousiasmés par les bonnes choses que vous avez accomplies. Que cela soit une source d'encouragement, mais le christianisme consiste à continuer à agir et à éliminer le péché, les idoles, les convoitises et tout ce qui s'y rapporte de nos vies, jour après jour. Ce sont des milliers de petits pas qui nous amènent au point où nous avons une liste de choses que nous avons accomplies, mais c'est en travaillant dur que nous y sommes parvenus, et c'est là que nous ne pouvons pas faire de compromis. Car si nous ne le faisons pas, si nous faisons des compromis et laissons tout tomber, nous commencerons à nous justifier. Nous justifierons pourquoi ces choses ne sont pas si graves, pourquoi nous avons juste quelques faiblesses, et il y aura peut-être des choses avec lesquelles vous lutterez toute votre vie jusqu'au royaume de Dieu. Vous aurez peut-être une croix à porter que vous devrez simplement porter. Cela ne signifie pas que lorsque la Bible dit « Eh bien, prenez votre croix et portez-la », cela signifie que vous ne devez pas vous efforcer de la réduire et de vous en débarrasser. Cela signifie simplement que c'est une faiblesse de votre part et que vous allez lutter contre elle jusqu'au royaume de Dieu, c'est la vie, mais cela ne nous donne pas le droit de l'ignorer. Nous devons continuer à y travailler. Si c'est en jeu, pensez-y. Vous avez une hache, vous essayez de la tailler ou de la réduire, pour qu'elle devienne de plus en plus petite, et elle ne disparaîtra peut-être jamais. Il y a peut-être des péchés dans votre vie que vous luttez contre la colère, et vous êtes meilleur qu'avant et vous continuez à y travailler, mais vous constatez qu'elle refait surface, parce que devinez quoi? Vous êtes de chair. Vous êtes humain. Il y aura des péchés dans votre vie jusqu'au royaume de Dieu. Ce n'est pas pour vous décourager. C'est juste pour vous rappeler que vous êtes un être humain. Vous êtes de chair. Moi aussi. Il y aura des péchés dans ma vie jusqu'à ce que j'atteigne le royaume de Dieu. Cela ne change rien au fait que vous et moi devons continuer à y travailler. Parce que si nous ne le faisons pas, nous cédons, nous commençons à nous justifier, et la justification mène à l'obstination. Nous cesserons de rechercher la volonté de Dieu et nous superposerons la volonté de Dieu à notre volonté propre. C'est facile à faire. Il est si facile de prendre la volonté de Dieu et de la superposer, de la forcer au-dessus de notre volonté, et nous disons simplement, « Eh bien, j'ai cherché dans la Bible. J'ai étudié. » Vous voyez cela lorsque les gens partent ou qu'ils se laissent prendre par le péché. Ils trouvent des moyens d'imposer la volonté de Dieu à des décisions terribles et pécheresses. Eh bien, j'ai étudié et j'ai jeûné à ce sujet. D'accord, c'est très bien. Ce sont deux choses que vous pouvez faire, mais si elles ne sont pas motivées par la volonté de Dieu à travers des conseils et divers autres aspects, alors ce n'est qu'un acte physique. Tout comme le baptême sans repentance n'est qu'un bain. Vous vous immergez simplement dans l'eau, vous vous mouillez, puis vous remontez à la surface. Rien ne s'est passé sans repentance. Des actions telles que le jeûne, la prière, l'étude, sans concentration spirituelle, sans rechercher la volonté de Dieu dans nos vies, sont des actions physiques. Tout ce que vous faites, c'est de la méditation mondaine. C'est tout ce que c'est. Ou si vous jeûnez et que vous ne vous rapprochez pas de Dieu, alors que le but est de vous rapprocher de lui, et non de lui faire accepter ce que vous voulez, vous avez simplement faim. C'est tout. Cette faim, cette faiblesse, sont censées nous amener à un point où nous disons, « Je ne suis pas assez bon, Dieu. Je n'ai pas la force de le faire, mais cela le remplacera. » Revenons au livre des juges. Nous devrions être au chapitre 16. Je pense que nous ne l'avons jamais quitté. Verset 15. La volonté propre peut remplacer la volonté de Dieu, et c'est Dalila, un peu plus loin dans le récit, et elle lui dit, « Comment peux-tu dire que je t'aime ?» Samson était stupide à bien des égards. « Quand ton cœur n'est pas avec moi, tu t'es moqué de moi trois fois et tu ne m'as pas dit où et comment tu as acquis ta force. » Les Philistins essayaient de comprendre comment Samson était si fort afin de pouvoir le vaincre, car il n'y parvenait pas. Et il arriva, comme elle le pressait chaque jour de ses paroles et le tourmentait, que son âme était vexée à mort. Cela n'aurait jamais dû arriver, car il n'aurait pas dû être là, et s'il avait eu de la volonté, s'il avait eu de la tempérance, de la maîtrise de soi, il aurait résisté, mais il avait perdu toute maîtrise de soi bien avant cela. Il n'avait aucune chance de lui résister. Verset 17. Et il lui ouvrit tout son cœur, et lui dit, « Il n'est jamais monté de rasoir sur ma tête, car je suis naziréen de Dieu depuis le sein de ma mère. Si je suis rasé, ma force me quittera. » Et je deviendrai faible, je serai comme n'importe quel autre homme. Samson renonça à sa force. Il renonça à ce qui le rendait spécial, unique. Ses émotions étaient incontrôlables. Ses désirs guidaient ses décisions. Il se justifia dans son esprit, par sa volonté propre, qu'il pouvait faire confiance à cette femme, cette prostituée philistin, et il lui révéla son secret. Il n'obéit pas à Dieu. Il supposa que Dieu le bénirait quelle que soit sa conduite. Il supposa qu'il maîtrisait la situation. La suite du récit, au verset 18, dit « Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins, en disant « Montez cette fois, car il m'a ouvert son cœur. » Les princes des Philistins montèrent vers elle, et ils apportèrent de l'argent dans leurs mains. Qu'elle soit au fond du gouffre ou non, c'était une prostituée que Samson avait décidé d'aller voir. Elle le fit dormir sur ses genoux, puis elle appela un homme et lui fit raser les 7 tresses de sa tête. Elle commença à le tourmenter, et sa force le quitta. Elle dit, « Que les Philistins soient sur toi, Samson. » Il se réveilla de son sommeil et dit, « Je sortirai comme les autres fois et je me secourrai. » Le Seigneur s'était détourné de lui. Il pensait pouvoir continuer ainsi. Il pensait pouvoir continuer à désobéir à Dieu. Mais il avait atteint un point où il était allé trop loin. Il allait y avoir des répercussions. Dieu l'avait-il rejeté? Non. Dieu ne l'avait pas rejeté. Mais il y avait désormais des répercussions à ses actes. Dieu allait lui montrer quelque chose qu'il n'aurait jamais cru possible. Il n'a pas cherché à prier. Même dans ce récit, pensez à ce qu'il a fait. Il s'est réveillé, n'a même pas remarqué que ses cheveux avaient disparu, mais s'est levé, sans penser, « Bon, les Philistins sont là. Dieu, que veux-tu que je fasse? Dois-je sortir? Dois-je rester à l'intérieur? Quelle est ta volonté, Dieu? » Non, il n'a pas prié. Il n'a pas cherché Dieu. Il n'a pas fait preuve de prudence. Il n'avait ni concentration, ni tempérance. Il n'exerçait pas le fruit de l'esprit. Il comptait sur lui-même, sur sa force, sur son pouvoir, sur sa propre compréhension. Et il s'est lancé à l'assaut, déterminé à faire ce qu'il avait toujours fait, car bien sûr, Dieu est avec moi. Il ne s'est jamais posé la question. Il ne s'est jamais assuré que Dieu était avec lui. Parce que, mes frères, vous et moi pouvons parfois nous demander, « Oh, Dieu est-il avec moi ?» La façon de le savoir, c'est de se demander si vous ou moi faisons les choses qui permettraient à Dieu d'être avec nous. Si nous répondons oui, bien sûr qu'il l'est. Parce que même avec Samson, Dieu ne l'a pas rejeté. Il avait juste besoin de lui donner une leçon très amère. Revenons au chapitre 3 du livre des Proverbes. Voici ce qu'il aurait dû faire. Proverbes, chapitre 3, verset 5. Proverbes 3, 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Lorsque nous comprenons que nous ne sommes que des êtres humains, que nous n'avons pas ce pouvoir, que nous n'avons pas cette force, que nous ne sommes pas ceux qui devraient guider nos pas, alors Dieu aplanira nos sentiers. Il nous aide à prendre les décisions, nous aide à éviter les décisions qui nous mèneraient sur le chemin emprunté par Samson. Mais Samson ne l'a pas fait, n'est-ce pas? Non, il s'est appuyé sur sa propre intelligence. Il a fait confiance à sa force au lieu de faire confiance à celui qui lui avait donné cette force. Il pensait, « Je suis puissant, je suis fort, et non, je ne suis qu'un serviteur de l'être qui est puissant et fort. » Nous pouvons faire la même chose. Si nous avons vécu ainsi pendant un certain temps, nous commençons à penser que nous avons compris. Cela devient plus facile. Et nous pouvons nous fier à notre propre compréhension, en oubliant que nous en sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui grâce à l'être qui nous a donné l'occasion de nous convertir, de changer et de grandir, la puissance qui nous soutient. Revenons à Jean, dans le Nouveau Testament, chapitre 5. Christ a insisté sur ce point, dans Jean chapitre 5, dans un seul verset. Verset 30, Jean 5 et verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. C'est Christ qui parle. Comme j'entends, je juge, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma propre volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Mes frères, nous devrions constamment rechercher la volonté du Père. Christ a rejeté sa propre volonté en tant que Fils engendré de Dieu. Il était Dieu. Il avait l'expérience d'être Dieu. Et il a dit, « Non, ce n'est pas ma volonté, c'est la volonté du Père. Je sais que je suis cher en ce moment. Je comprends les gens, je les ai observés depuis qu'ils existent, depuis des milliers d'années. Je sais que j'ai ces faiblesses en tant que chair. Je ne vais pas faire ma propre volonté. » Il connaissait tous les versets de l'Ancien Testament, ce qui arrive quand on est chair. Il a dit, « Non, je me concentre sur la volonté du Père. » La volonté de Dieu guidait ses actions, lui donnait sa force, le rendait plus puissant, pas faible. À l'inverse, Samson a fait le contraire. Il n'a pas cherché Dieu, il n'a pas cherché la volonté de Dieu, il n'a pas cherché la compréhension de Dieu, et avec le temps, il a érodé sa capacité à voir tout cela, tout ce qui était spirituel. Et puis il a été vaincu. Dieu lui a retiré sa force, mais il l'a fait dans un but précis. Revenez au chapitre 16 du livre des juges. Encore une fois, le chapitre 16 du livre des juges. Mes frères, parfois, vous et moi allons trop loin. Pas au point d'avoir renoncé à l'Esprit de Dieu. Si vous vous demandez parfois, ai-je commis le péché impardonnable? Si vous craignez d'avoir commis le péché impardonnable, c'est que vous ne l'avez pas commis. Le fait même que vous vous en inquiétiez signifie que l'Esprit de Dieu est toujours présent en vous. Cela signifie qu'il y a encore de l'espoir pour la repentance. Si vous choisissez d'ignorer le conseil que je viens de vous donner, vous choisissez d'ignorer l'Esprit qui est en vous. Alors, vous êtes sur la voie qui y mène. Oui, bien sûr, vous pouvez y aller. Mais Dieu vous laisse aller assez loin avant que vous ne perdiez son esprit. Mes amis, regardez la Bible. Regardez les personnages de la Bible, les choses, certaines des choses terribles qu'ils ont faites. Regardez Samson, dont nous parlons aujourd'hui. Des choses terribles. Juges 16, verset 21. Verset 21. Mais les Philistins le capturèrent, lui crevèrent les yeux et le rendirent aveugle, ce qui est approprié, car spirituellement, il était devenu très aveugle. Et ils le conduisirent à Gaza, où ils le lièrent avec des chaînes de bronze. Et il moulait dans la prison. Sa force avait disparu. Il était faible. Il était aveugle physiquement et spirituellement. Il avait perdu le soutien de Dieu. Il a reçu une punition, n'est-ce pas? Il a reçu une correction. Non pas pour lui faire du mal, même si se faire arracher les yeux n'était probablement pas agréable, mais pourquoi cela s'est-il produit? Pourquoi Dieu a-t-il permis que cela arrive? Pour la même raison que Dieu permet les épreuves, les tribulations, les difficultés, les expériences, les choses difficiles de notre vie. Parce que nous nous sommes écartés du droit chemin d'une manière telle que Dieu dit, « Je ne veux pas perdre cet être potentiel, celui qui pourrait faire partie des 144 000, alors je vais le remettre sur le droit chemin. » Et cela peut se produire, mes frères, de multiples façons. Nous pouvons, au sens figuré, avoir les yeux arrachés. Cela peut être extrêmement douloureux, mais c'est fait dans un but précis. La correction vient avec nous, sur nous et pour nous, dans un but précis. Parfois, lorsque nous sommes humiliés par la correction, c'est à ce moment-là que nous commençons à voir. C'est l'ironie de la chose. L'ère de Laodicée est l'ère où les gens sont aveugles. Ils ne peuvent pas voir parce que leur volonté propre est devenue si forte que leur vision spirituelle s'est obscurcie. La vision spirituelle de Samson s'était tellement obscurcie que Dieu lui a dit « Je vais te faire perdre ta vision physique également ». Et, ironiquement, la perte de sa vision physique a été la première étape pour retrouver sa vision spirituelle. Dieu ne l'a pas abandonnée. Il l'a corrigée, sévèrement dans ce cas-ci. Parfois, Dieu nous corrige sévèrement, vous et moi. Nous acceptons cette correction. Nous grandissons et nous nous développons. On ne nous donne jamais plus que ce que nous pouvons supporter. Mais nous devons être prêts à accepter la correction. Nous devons être prêts à faire ce que Dieu veut que nous fassions afin de pouvoir en sortir meilleurs, plus efficaces. Et c'est ce que Samson a fait. Sa punition l'a amené à reconsidérer les choses. Son orgueil s'est dégonflé. Son arrogance, son obstination, ses décisions, tout ce qui l'avait conduit à ce moment-là, lui ont ouvert les yeux. Mes frères, la correction, aussi sévère soit-elle, nous est infligée afin que nous puissions voir spirituellement. Nous voulons être capables de corriger le tir, d'être capables de prendre les bonnes décisions. Nous voulons être dans une position où nous n'allons pas aussi loin que Samson avant que Dieu ne puisse nous remettre sur la bonne voie. Nous devons éliminer cela, ce péché, la convoitise, l'idolâtrie, dès le début, afin que la correction ne soit pas trop sévère. Cela peut être une instruction ou une exhortation. Il n'est pas nécessaire que cela devienne une correction sévère si nous le faisons tôt. Il poursuit donc au verset 22, « Mais ses cheveux recommencèrent à pousser après avoir été rasés. » Ils recommencèrent à pousser. Parfois, la Bible cache le sens des mots. C'est comme si on disait, « Regardez, Samson avait des cheveux magiques. » Dès que ses cheveux ont repoussé, il a retrouvé toute sa force. Non, cette force, ce pouvoir venait de Dieu. Il aurait pu laisser repousser les cheveux de Samson parce qu'il avait rompu son vœu de Naziréa en se faisant raser les cheveux, car lorsqu'on rompt un vœu, il est rompu. Mais non, Dieu a vu son cœur. Il a vu le changement. Il a vu qu'il avait accepté la correction. Ce n'était pas une restauration bruyante, puissante et impressionnante de sa force. Son obéissance, sa soumission à Dieu, sa repentance se sont produites dans son cœur, et Dieu l'a béni en lui redonnant sa force. Dieu nous rend humble dans certaines situations, car c'est ainsi qu'il attire notre attention. Il nous abaisse. Nous ne pouvons que nous humilier nous-mêmes. Mais Dieu peut nous abaisser et chasser notre orgueil si nous le choisissons, si nous l'acceptons. L'orgueil peut nous pousser à lutter contre l'abaissement de Dieu, ou nous pouvons accepter que nous avons commis une erreur, que nous avons échoué, que nous n'avons pas fait ce que nous aurions dû faire. Psaume 119. Psaume chapitre 119, ou le 119e psaume, si vous préférez. Verset 67, 119. Un verset simple, mais qui va droit au but. Psaume 119, verset 67. Avant d'être affligé, je m'égarais. Mais maintenant, après avoir été affligé, j'ai gardé ta parole. Mes frères, c'est ce que nous devons faire. Parfois, nous devons souffrir pour que Dieu attire notre attention. Et encore une fois, cela peut se produire à travers le ministère, à travers les gens, à travers les expériences, à travers les épreuves. Lorsque nous voyons Dieu guider nos vies, c'est parce qu'il vous a choisis avant la fondation du monde. Il veut que vous réussissiez. Il ne veut perdre aucun d'entre nous. Mais parfois, pour nous remettre sur la bonne voie, nous devons être corrigés. Et parfois, cette correction peut être sévère. Revenons au livre des juges. C'est là que l'histoire de Samson devient un peu triste, d'une certaine manière. Parce qu'il avait tellement de potentiel. Il avait tellement d'opportunités depuis le jour de sa naissance pour accomplir de grandes choses. Et il a accompli de grandes choses. Finalement, il s'est repenti. Mais il a manqué l'opportunité de sa vie. Chapitre 16, vous y êtes, verset 23. Verset 23 du chapitre 16 du livre des juges. Alors les seigneurs des Philistins se rassemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir, et ils dirent, « Notre dieu a livré Samson, notre ennemi, entre nos mains. » Et quand le peuple le vit, il loua son dieu et dit, « Oh, notre dieu a livré entre nos mains notre ennemi et le destructeur de notre pays, qui a tué beaucoup d'entre nous. » Oh, ils étaient fiers. Et il arriva, lorsque leur cœur était joyeux, qu'ils dirent, « Appelez Samson, afin qu'il nous divertisse. » Et ils appelèrent Samson hors de la prison. Et il les divertit, et ils le placèrent entre deux colonnes. Ils allaient l'humilier. Ils se moquaient de Dieu. Il était leur objet de divertissement. Et à un moment donné, soit à ce moment-là, soit au cours du processus, car on n'appuie pas sur un interrupteur. Nous ne péchons pas et ne tombons pas dans le péché d'un simple clic. Mais nous ne parvenons pas non plus à la repentance d'un simple clic. Ce sont nos décisions qui nous mènent là où nous allons. Verset 26. Parce que Samson s'est finalement tourné vers Dieu, s'est repenti, a cédé. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi remplir les piliers sur lesquels repose cette maison, et je m'appuierai sur eux. » Or, la maison était pleine d'hommes et de femmes, et tous les seigneurs étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 hommes et femmes qui regardaient Samson s'amuser. Puis une grande décision fut prise. Et Samson invoqua le Seigneur et dit, « Ô Seigneur Dieu, souviens-toi de moi. » Craignez-vous parfois que Dieu nous oublie? Il ne le fera pas si nous choisissons d'obéir. Si nous choisissons de nous repentir, si nous changeons, il ne le fera pas. Souviens-toi de moi, je t'en prie. Fortifie-moi, je t'en prie. Une seule fois, ô Dieu, afin que je me venge des Philistins pour mes deux yeux. Il n'a pas dit, je suis fort, et je vais le faire. J'ai le pouvoir. Je sais quoi faire. Je m'appuie sur ma propre compréhension. Je suis l'homme de la situation. Oh non, il était dans une situation très différente, n'est-ce pas? Il a changé de situation. Verset 29. Samson saisit les deux colonnes qui soutenaient la maison, l'une de sa main droite et l'autre de sa main gauche. Et Samson dit, que je meure avec les Philistins. Et il se pencha de toutes ses forces, et la maison s'écroula sur les seigneurs et tout le peuple qui s'y trouvait. Ainsi, il tua dans sa mort plus de gens qu'il n'en avait tués dans sa vie. Dieu lui accorda le repentir, mais cela lui coûta la vie. Ce fut sa victoire. Ce fut une vie qui manqua son potentiel, qui manqua ce qu'elle aurait pu accomplir. Elle perdit du temps. Elle ne racheta pas le temps. Passons au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Nous arrivons donc à la fin. Hébreux chapitre 11, verset 32. Hébreux 11, 32. Et que dirais-je encore? Le temps me manquerait pour raconter leurs exploits. C'est donc le chapitre sur la foi. Il parle de ces grands personnages qui ont réussi. Nous connaissons Gédéon, Barak, Samson, Jephté, David, Samuel et tous les prophètes. Tous ceux qui ont réussi. Il figure sur cette liste. Il s'est repenti. Il n'est jamais trop tard pour changer. Mes frères, n'allez pas aussi loin que Samson. N'en arrivez pas au point où la mort est la seule option pour vous repentir. Dieu ne devrait pas avoir à vous frapper avec quelque chose qui va vous tuer pour que vous ou moi comprenions que nous devons lui obéir. Faites-le tôt, faites-le maintenant, faites-le rapidement, afin de pouvoir rattraper le temps perdu, vous remettre sur la bonne voie, devenir plus fort, vous rapprocher de Dieu, réaliser le potentiel qu'il vous a donné pour pouvoir mettre en œuvre dans votre vie les talents et tout ce qu'il vous a donné. Ne laissez pas l'exemple de Samson devenir votre réalité. C'est formidable qu'il se soit repenti. C'est merveilleux. Nous le verrons. Et je suis sûr que les histoires qu'il raconte et la façon dont il peut enseigner et aider les gens seront formidables grâce à ses erreurs. Mais laissez ces erreurs vous enseigner maintenant. Profitez du temps dont vous disposez actuellement et ne laissez pas sa mort, si vous voulez, être vaine. Il ne nous reste plus beaucoup de temps dans cette époque. Elle touche à sa fin. Nous devons racheter chaque minute dont nous disposons. Prenez l'exemple de Samson. Prenez ses erreurs. Observez et comprenez les occasions qu'il a manquées et appliquez-les dans votre vie. Changez là où vous en êtes. Remettez-vous sur la bonne voie avec tout ce qui vous éloigne. Et ne manquez aucune occasion dans cette grande vocation que Dieu vous a donnée, à vous et à moi, aujourd'hui.